Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Hello? Come in. Sit. Christ, man, it's all about ego. This whole town runs on ego.
Yeah, I'm Bobby.
Bonnie, come in here, can you?
La bande-annonce de Café Society de Woody Allen, film d'ouverture ce soir à Cannes. Et c'est une première, ce film est financé par le géant de la distribution en ligne Amazon. Quatre autres longs-métrages dont le studio a acheté les droits de distribution seront présentés. Voilà un an et demi qu'Amazon s'est lancé dans le cinéma avec un budget conséquent, 3 milliards de dollars sur l'année 2016. Et il n'est pas le seul. Deuxième acteur non classique et acteur de poids à entrer dans le secteur, Netflix, géant de la vidéo à la demande sur abonnement, qui est devenu le plus gros investisseur mondial dans le domaine de la fiction. Deux nouveaux acteurs qui inquiètent, la salle de cinéma disparaîtra-t-elle? Deux nouveaux acteurs qui suscitent aussi des espoirs, créeront-ils de nouveaux débouchés? Alors, Amazon et Netflix vont-ils bouleverser le secteur du cinéma? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, deux invités à mes côtés dans ce studio, Fabrice Rochelandais, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur en économie et en politique des arts et de la culture à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Vous êtes par ailleurs le co-auteur du livre « Économie des arts et de la culture » qui est paru chez Armand Collin. Et puis à Cannes, dans le studio de RFI de la Croisette, Thomas Sautinel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et critique pour le journal Le Monde. Thomas Sautinel, Amazon sur la Croisette, est-ce que c'est une révolution ?
C'est pas une révolution, les règles du festival n'ont pas changé, mais c'est un grand changement. C'est rare qu'un nouvel acteur arrive de manière aussi massive dans une institution aussi stable que le Festival de Cannes.
Alors Amazon, hein, ce sont, je le disais, 5 films au total sur la Croisette. Quel accueil a été réservé ou quel accueil est réservé à Amazon à Cannes cette année? On se souvient que l'année dernière, Netflix n'avait pas été très très bien accueilli.
Alors Amazon a adopté une stratégie très différente de celle de Netflix vis-à-vis de l'industrie du cinéma. Amazon s'est engagé à respecter la chronologie des médias qui est contractuelle et très différente aux États-Unis de la chronologie réglementée en France. Mais dans ces deux pays, Amazon la respecte. Les films sortent en salle avant d'être mis en ligne sur la plateforme. Et Amazon, par exemple, prend en charge la distribution du film de Woody Allen aux États-Unis et a promis que ce serait la plus grosse sortie en salle d'un film de Woody Allen depuis plus de 30 ans.
Donc pour vous, c'est une manière assez classique d'entrer dans le cinéma, c'est ça ce que vous nous dites sur Amazon, sur ce Woody Allen ?
Alors, c'est classique dans la mesure où, effectivement, l'attitude n'est pas fondamentalement différente de celle qui a été celle des chaînes de télévision ou des chaînes de payantes par le passé. C'est-à-dire, on finance, on laisse le film vivre sa vie en salle et ensuite, on l'exploite, en l'occurrence sur une plateforme de SVOD.
Alors Fabrice Rochelandais, quel est votre regard sur cette arrivée d'Amazon sur le marché? Thomas Sautinel nous disait à l'instant, c'est pas vraiment une révolution, mais ce sont de gros changements à venir. Votre analyse?
En fait, je pense que l'entrée d'Amazon est assez classique sur le marché du cinéma. Ça ressemble étrangement, ça a le même goût, la même saveur que l'entrée d'un grand acteur américain qui s'appelle HBO, qui a produit des grandes séries et qui a...
House of Cards, par exemple. Je me trompe. Allez-y, continuez. HBO, donc.
Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'arriver, de respecter un peu les règles du jeu, mais en même temps de produire, d'investir pour justement ne pas rester qu'un simple intermédiaire, mais aussi pouvoir peser sur les coûts d'acquisition des films et donc pouvoir augmenter un peu leur marge commerciale.
Donc pour vous, c'est Amazon est entré en cinéma, je ne sais pas si l'expression est la bonne, pour peser, mais pas pour s'imposer dans le milieu.
En tout cas, pour l'instant, leur stratégie, si elle suit celle qu'ils ont déjà menée depuis pas mal d'années sur les séries, ça consiste à se servir, à mobiliser ces ressources que sont les films ou les séries pour conforter leur modèle économique. Donc je ne pense pas qu'ils veuillent véritablement tout transformer, tout chambouler l'industrie du cinéma. On le voit par exemple par rapport aux salles. Pourquoi ils respectent les salles? Parce que les salles, ça crée l'événementiel, ça crée l'aura, ça crée la critique, ça permet de passer au Festival de Cannes. On passe pas au Festival de Cannes si le film n'est pas en salle. Donc ça permet quand même de créer de l'événementiel et de faire parler de soi. Hein, ça c'est un premier point important.
Et d'aller chercher des nouveaux clients.
Éventuellement aller chercher de nouveaux clients et surtout de négocier avec des concurrents ou des fournisseurs de contenu. Hein, pouvoir avoir encore une fois un poids pour pouvoir négocier. Ça, c'est un point important. Et je pense qu'il y a un deuxième problème, enfin, un deuxième point stratégique, encore plus fondamental, c'est que le film, comme la série, pour Amazon, c'est un produit d'appel. C'est-à-dire que si vous observez le deal avec avec Woody Allen, avec le film de Woody Allen, c'est simplement ok, après 3 mois de sortie en salle aux États-Unis, parce qu'Amazon a acquis les droits uniquement sur le marché nord-américain, au bout de 3 mois, c'est l'exclusivité après sur Amazon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va servir les abonnés au service général Amazon Prime. On va leur donner des films, des séries en exclusivité pendant un certain temps. Ça permet quoi? Ben, ça permet de les fidéliser, ça permet de les verrouiller. Pour une simple raison, c'est que les abonnés, c'est une étude qui a été produite il y a un an ou deux, qui montrait que les abonnés Amazon sont prêts à payer 2,5 fois plus cher n'importe quel bien sur Amazon que les non-abonnés. Donc pour Amazon, c'est tout bénéfice.
Alors Thomas Sautinel, votre réaction à ce que vient de nous expliquer Fabrice Rochelandais, qui finalement dit, voilà, bon, entrer sur le marché, mais pas pour bouleverser le secteur.
Alors, c'est assez difficile de savoir ce qu'Amazon va faire, puisque, par exemple, ils ont lancé un abonnement purement streaming vidéo, alors qu'ils avaient toujours manifesté l'intention de ne pas le faire. Donc, les règles du jeu vont changer au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise. Amazon, pour l'instant, la plateforme de SVOD n'est présente qu'aux États-Unis, en Allemagne et au Royaume-Uni. Quand elle se diffusera sur d'autres territoires, il faudra sûrement réviser la stratégie et les accords avec les salles, et particulièrement en France, où Amazon se trouvera confronté aux mêmes contraintes que celles que la réglementation française a opposées à Netflix et qui a conduit Netflix à prendre une attitude très offensive par rapport à la réglementation française.
Donc ce que vous voulez dire, Thomas Sautinel, c'est que quand Amazon dit « oui, on va sortir en salle », quand Amazon recrute aussi des pointures du cinéma indépendant, hein, on va en parler, en fait cette position, c'est une position conciliante mais qui n'est pas gravée dans le marbre, qui pourrait évoluer dans un mauvais sens selon vous, c'est ça ?
Elle pourrait évoluer dans un sens qui serait plus conforme à une stratégie qui est de proposer des contenus exclusifs aux consommateurs. Or, si Netflix est en mesure, comme ils vont le faire bientôt, ils vont sortir un film de David Michaud, réalisateur australien plutôt bien vu, bien considéré, avec Brad Pitt, c'est une comédie guerrière qui se passe, je crois, en Afghanistan. Et ce film War Machine sera peut-être dans un festival, mais Netflix est catégorique. Partout où il sortira en salle et en VOD en même temps, ou alors il ne sortira qu'en VOD. Ce sera le cas en France. Donc, face à cette concurrence, qu'est-ce que peut faire Amazon ? Peut-être que la stratégie de concorde avec l'industrie du cinéma et avec les industries nationales du cinéma fonctionnera, mais il y aura toujours cette concurrence avec Netflix. Or, je ne pense pas que le duel Amazon-Netflix puisse se conclure de manière très pacifique.
Oui, c'est-à-dire que ce ne serait pas forcément une volonté aujourd'hui, mais une nécessité économique. Hein. C'est ce que vous nous dites. Thomas Sautinel, je voudrais qu'on revienne quand même sur ce qui est intéressant dans les choix qu'a fait Amazon. Je le disais, qui a choisi de recruter un producteur pour monter ce volet cinéma, donc Ted Hope, qui a aussi recruté un vétéran de la distribution, Bob Bernay, qui sont deux profils du cinéma indépendant américain, qui s'est aussi offert les critiques de l'un de vos confrères, Scott Fondas, un critique qui est reconnu aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le cinéma d'auteur américain et peut-être ensuite ailleurs?
Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle, et pour l'instant, les projets mis en chantier par Amazon ou auxquels Amazon contribue sont des projets plutôt alléchants. Là, il y a le grand film historique que Mike Lee veut faire depuis des décennies sur le massacre de Peterloo, qui est un grand épisode de la lutte de classe en Angleterre, de la lutte pour la République en Angleterre au 19e siècle. C'est un film qu'aucun studio n'aurait voulu financer et que Amazon va financer. Donc, comme d'habitude, comme ça s'est passé effectivement avec HBO, comme ça s'est passé avec Canal+, quand un nouvel acteur, quand un nouvel investisseur arrive, les créateurs ont tout intérêt à en profiter. Après, quand les questions difficiles arriveront, ce sera d'ailleurs pas aux créateurs d'en discuter, ils interviendront sans doute, mais plutôt aux producteurs, aux distributeurs de faire les choix, les arbitrages qu'il faudra faire.
Fabrice Rochelandais, sur cette notion de cinéma indépendant, comment est-ce que vous voyez la stratégie d'Amazon, qui est très différente là de Netflix ?
Bon, l'idée, c'est, à mon avis, c'est de se différencier, de faire parler d'eux, et on fait parler plus de soi avec des nouvelles valeurs montantes ou des valeurs consacrées d'ailleurs, hein, parce qu'on dit cinéma indépendant, mais Jarmusch, c'est un cinéaste indépendant, mais qui est quand même consacré, qui est tout comme Woody Allen, hein,
en France, qui a beaucoup de succès, qui est beaucoup plus confidentiel aux États-Unis, donc c'est aussi un signe de la stratégie d'Amazon.
Tout à fait. Et puis donc de se légitimer aussi par rapport à la profession, à l'industrie, puis effectivement, c'est se faire parler de soi dans les médias, c'est pour Amazon, c'est tout gagnant.
Donc pour vous, c'est une question d'image, c'est pas aussi un levier important, un marché important
Peut-être aussi un marché pour attirer d'autres producteurs indépendants, parce qu'il faut pas oublier que Netflix comme Amazon sont basés sur de nouveaux modèles économiques, où en fait les petites ventes représentent plus ou moins à peu près l'équivalent des ventes de best-sellers, des grosses ventes. Et donc eux, les petites ventes, par exemple, de bouquins chez Amazon, ou les petites ventes, les petites locations de films finalement, ça peut représenter, alors là on est en SVOD, c'est un peu différent, mais qu'importe, ça peut quand même représenter une audience conséquente et quasi équivalente à l'audience que généraient des blockbusters ou des gros films. Donc pour eux, c'est pas non plus complètement neutre, cet intérêt pour la création indépendante.
Amazon, Netflix vont-ils révolutionner le cinéma ? C'est donc le débat de ce soir sur RFI avec Fabrice Rochelandais, professeur en économie, en politique, des arts et de la culture. Thomas Sautinel qui est à Cannes, journaliste et critique au journal Le Monde. Thomas Sautinel, je voudrais qu'on se penche maintenant sur Netflix en particulier. On l'a dit, qu'il y a une stratégie différente d'Amazon, qu'il y a une structure différente, qui veut produire des films plus populaires, plus grand public, directement sur les plateformes de VOD. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'avec l'arrivée de Netflix et d'Amazon, vous craignez la disparition de la salle de cinéma, Thomas Sautinel?
Alors, je ne pense pas que la salle va disparaître. La salle aura une place, mais effectivement, Netflix et Amazon n'ont pas spécialement intérêt à ce que la salle reste un lieu économique majeur. Un lieu symbolique, sûrement. C'est toujours mieux une première dans un grand cinéma. C'est toujours mieux d'avoir des affiches dans les villes. Mais lors du séjour à Los Angeles que j'ai fait récemment, où j'ai rencontré justement des gens de Netflix et des professionnels du cinéma américain.
Oui, car vous signez une enquête sur le sujet ce matin.
L'essentiel des affiches étaient des affiches pour des séries télé de HBO, de Netflix, d'Amazon. Donc déjà, il y a une hiérarchie qui est un peu bouleversée. Et par ailleurs, effectivement, pour l'instant, en tout cas dans le discours, Netflix et Amazon, ce n'est pas la même chose. Le patron de Netflix, Ted Sarandos, dit que il n'a rien contre la salle, mais que ce n'est pas son problème. Si les auteurs de films qu'il a produits veulent sortir en salle, ils le peuvent. Mais ce n'est pas à Netflix d'organiser cette sortie, contrairement à Amazon, qui, elle, prend en charge la sortie des films qu'elle a produits.
Fabrice Rochelandais, sur cette notion de salle, de l'endroit du cinéma, qu'est-ce que vous voyez se dessiner?
Il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est, un, d'abord, les salles de cinéma, on a prédit leur disparition à l'époque de la télévision, du câble, etc. Elles ont la peau dure. Pourquoi? Parce que, comme montrent mes collègues économistes du cinéma, comme Laurent Creton, par exemple, c'est qu'elles ont leur dynamique propre, ces salles. Elles ont une capacité d'innovation, du multiplex à la 3D, etc. Bon. Donc ça, faut pas enterrer les salles trop vite, parce que aussi, les salles de cinéma ont des capacités importantes. Et puis, faut pas oublier qu'elles sont toujours le lieu de la valorisation première des films. Les critiques, les festivals ne s'articulent qu'autour des sorties de films en salle. Donc il y a l'aura.
Mais s'il y a de moins en moins de sorties de films en salle, et si effectivement de plus en plus de films sortent que sur les plateformes VOD, ça va quand même tout changer, non ?
Ça pourrait, mais en fait ça dépend du modèle. Si le modèle Amazon s'impose, le modèle d'une grande plateforme généraliste qui vend d'autres choses, qui vend des machines à laver, etc., je pense pas que ça menacera le système. Pourquoi ? Parce qu'Amazon a tout intérêt à ce que les salles existent, parce que Amazon a besoin de produits d'appel, parce qu'Amazon a besoin de recruter de nouveaux consommateurs. Le cas Netflix est un peu différent, parce que Netflix fait toute sa valeur, tout son chiffre d'affaires sur la SVOD. Hein, la valorisation de son produit, c'est la location, c'est le service d'abonnement, c'est un service basé sur des abonnements. Et donc, ça peut expliquer pourquoi ils sont aussi agressifs. Hein, Netflix est beaucoup plus agressif. Et notamment, Netflix voit un pactole à travers le marché du cinéma, le box-office, hein, qui est... Comment cela va évoluer, je sais pas. Moi, je fais pas de futurologie, je pourrais pas vous dire quel quel modèle va s'imposer. Effectivement, si Netflix s'impose, peut-être qu'il y aura peut-être une difficulté et que ça va peut-être pousser les salles de cinéma à innover. Mais quelle est l'issue de cette compétition, de cette course? Je pourrais pas vous le dire à l'heure actuelle.
Thomas Sautinel, je pensais à la musique. Il y a eu un petit peu la disparition du CD avec le développement de ces plateformes type Spotify, Deezer, et pourtant les salles de concert ont encore beaucoup de succès. Est-ce qu'on peut pas imaginer ce scénario-là pour le cinéma?
On peut l'imaginer, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Il faut bien, ça veut dire que la sortie telle que nous la connaissons en France, mais il faut aussi se rappeler que en France, la situation est très particulière, sans équivalent dans aucun autre endroit au monde, à part peut-être New York et encore. Donc, si la sortie en salle avec une vingtaine de films par semaine, ce serait fini. Il y aurait de très gros événements, des films de super-héros, des films lancés planétairement par des très grosses machines industrielles, et puis sans doute quelque chose qui ressemblerait à une espèce de festival permanent dans lequel on créerait l'événement autour de d'une jeune création, de nouveaux talents, etc. Mais le fait que en France, ce qu'on connaît, de pouvoir voir dans quasiment toutes les villes de plus de 15 000 habitants un grand choix de films venus de tous les endroits du monde et qui recouvrent tous les modèles économiques du cinéma, cette exception française, elle ne pourrait pas résister à l'imposition du modèle Netflix qu'on désigne en anglais sous le terme day and date, c'est-à-dire la sortie simultanée en salle et en SVOD.
Alors du coup, Thomas Sautinel, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'il faudrait légiférer, renforcer les garanties pour sauver les salles françaises, pour sauver la sortie en salle avant une sortie sur les plateformes?
Alors, il n'y a pas, enfin, dans l'état actuel des textes, il n'y a pas besoin de légiférer plus. Netflix, d'ailleurs, les dirigeants de Netflix disent qu'ils vont produire des films en France. Mais qu'ils ne les sortiront pas en salle. Mais pour l'instant, ils n'ont aucun projet en route parce que il n'y a pas de producteur français qui voudrait faire sauter l'étape de la salle, sauf très rares exceptions comme le film sur DSK produit par une société française, le film d'Abel Ferrara. Mais sinon, il n'y a pas de raison que les producteurs français, pour l'instant, travaillent avec Netflix.
Donc le risque immédiat, ce serait plutôt aux États-Unis.
Oui, ben il est déjà très grand. Il y a la diversité du cinéma aux États-Unis, de l'offre du cinéma aux États-Unis, et se réduit comme peau de chagrin chaque année et est arrivé à un stade assez misérable.
Fabrice Rochelandais, je voudrais un peu prendre la question à l'envers. On a beaucoup dit qu'Amazon et Netflix seraient des prédateurs. C'est les mots qu'on voyait il y a un an et demi quand ils se sont lancés tous les deux. Est-ce qu'on pourrait pas dire à l'inverse aussi qu'ils pourraient favoriser, que ce seraient des novateurs, que certains artistes vont aller les voir en leur disant « Est-ce que vous me donnez une chance ?»
Oui, tout à fait. Oui, oui. Ben, c'est peut-être dans leur intérêt de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux créateurs, pour différencier leurs offres, et puis de prendre le relais un peu de ce que Canal Plus ou d'autres ne font plus en fait, c'est-à-dire de financer des films,
prendre des risques,
des films du milieu, cher à certains, ou prendre des risques, voilà, parce que ils ont une capacité à lever des fonds, ils ont des profits énormes par rapport à leur chiffre d'affaires, mais ils ont une capacité quand même, une force de frappe financière qui leur permet de s'investir, d'investir dans la création nouvelle. Donc ça, c'est plutôt, à court terme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la diversité de l'offre. Après, à long terme, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, si la salle de cinéma est menacée, c'est aussi une partie de la diversité culturelle qui risque d'en pâtir. Ça, je rejoins tout à fait l'avis de...
Et Thomas Sautinel, à court terme, est-ce que même si vous êtes très critique, vous voyez quelques opportunités pour qu'Amazon ou Netflix alimentent la création ou la diversité des contenus en quelques secondes?
Oui, bien sûr, on le voit déjà, parce que Netflix, si en long métrage de fiction n'a pas été pour l'instant très, très brillant, en revanche, cette compagnie a déjà produit de nombreux documentaires passionnants. Et par ailleurs, les questions que pose Netflix par rapport à l'état de la diversité de l'offre de cinéma aux États-Unis sont tout à fait valides. Et effectivement, Netflix donne accès à un cinéma autre à des millions d'abonnés.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci donc à Thomas Sautinel qui est à Cannes dans le studio RFI, journaliste et critique pour le journal Le Monde. Merci à Fabrice Rocheland et à mes côtés, professeur en économie et politique des arts et de la culture à l'université Paris 3, co-auteur du livre Économie des arts et de la culture chez Armand Collin. Merci également à Florence Ponce, à Franck Launay et à l'équipe de Cannes qui a rendu possible le duplex en direct de la Croisette.